Bonjour et bienvenue sur Phil FM. Nous sommes le mardi 20 mai, il est 11h30. Mélissa et moi-même, Simon, allons nous présenter le journal de la 4e A. Le sommaire. La France, élection européenne, présentée par Gabin, Simon et Corentin. Facture de l'UMP, présentée par Ashmia, Laura et Lara. Fraude fiscale, réalisée par Mathis et François. La loi famille, faite par Vincent. Changer l'école de Laura, Lara et Ashmia. Et enfin, le recyclage de Marc et Quentin.
Le Monde, Mali de Lucie et Mélissa, Sibi de Maëlys et Clara, Grèce de Valentine et Claire, Ukraine de Julien et Antoine. 63, c'est le pourcentage d'abstention qui est estimé pour les élections européennes qui se passent le 25 mai. Un reportage signé Gabin, Corentin et Simon.
Malgré ce fort taux d'abstention, les partis défendent leur idée. Pour les institutions, le Front National souhaite jeter les bases d'une Europe, mais les centristes se définissent eux-mêmes comme partisans d'une Europe fédérale.
Niveau fiscalité et sociale, le PS défend l'adoption d'un traité social européen pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. L'UMP souhaite instaurer des conditions de concurrence loyale entre les 28 pays de l'Union en favorisant la convergence fiscale et sociale. Le FN veut enrayer le cycle infernal de l'austérité en mettant fin aux plans de renflouement qui ne font qu'aggraver la dette et en consacrant l'argent des Français à une ambitieuse politique de redressement de la France. Quant aux écologistes, ils proposent l'adoption d'un salaire minimum européen basé.
Pour l'immigration et le traité de Schengen, le PS propose de mieux encadrer la libre circulation, la répression aux frontières et la communication de l'accompagnement. En l'absence de progrès sérieux dans les 12 mois, nous pourrions suspendre la participation de la France aux accords de Schengen, dit l'UMP. Le FN veut sortir de l'espace de Schengen et rétablir les frontières nationales pour restreindre rapidement les filières de la drogue et l'emprise de la délinquance nomade étrangère. Le parti de Marine Le Pen propose aussi la suppression dans le droit français et la possibilité de régulariser les clandestins.
Pour l'euro, Jean-Luc Mélenchon, durant la campagne, a ouvertement dit « L'euro a été mis en place de manière imparfaite ». L'UMP veut que la BCE soit davantage tournée vers le soutien à la croissance et à l'emploi. Pour le PS, une sortie de l'euro est un scénario catastrophe qui provoque une crise économique majeure. Marine Le Pen a fait de la sortie de l'euro l'un des points clés de sa campagne. Ainsi, d'une manière générale, ils ne sont plus que 39% à juger l'appartenance de la France à l'Union européenne, qui est une bonne chose, et 22% que c'est une mauvaise chose. Ainsi, 85% des sondés assurent que l'Union européenne ne protège pas assez ses intérêts économiques et commerciaux.
Les deux tiers d'entre eux, 65% et jusqu'à 80% au FN, estiment que l'Union devrait rétablir des contrôles aux frontières entre les États membres.
Et 63% des personnes interrogées que l'Union européenne est un gaspillage de l'argent des contribuables. Une majorité de 54% considère tout de même que globalement, l'euro présente plus d'inconvénients que d'avantages pour la France. Le Front National, à 66%, souhaite que l'on sorte de l'euro pour revenir au franc.
Avant d'aller au Parlement européen, l'UMP ferait mieux de payer ses factures.
L'affaire Bimalian et des folles factures de l'UMP continuent d'être une épine dans le pied de Jean-François Copé.
Même si le président de l'UMP a déclaré lundi qu'il, je cite, « fournirait toutes les explications nécessaires après le scrutin des européennes », les critiques ne cessent pas loin de là. Il continue d'ailleurs à jouer la carte de la manipulation politique à quelques jours d'une élection importante.
Il a d'ailleurs déclaré, je cite, « on nous a fait ça avant les municipales avec les mêmes allégations ». Le tout amalgamé, mal vérifié, le journal Libération, qui avait mis au jour l'affaire persiste, pourtant affirme que 55 conventions avaient été organisées pour une somme de 13 millions d'euros. Les 7 millions d'euros restants consternaient des meetings et dépenses de campagne.
Le problème n'est à tant le nombre que le coût, d'autant plus que certains députés, comme Pierre Lelouch, censé animer ces conventions, ne gardant aucun souvenir d'y avoir assisté. Jean-François Copé, qui s'est engagé à fournir d'ici peu tous les détails, va avoir à résoudre la quadrature du cercle.
Il paraît que la lutte contre les fraudes fiscaux en France et en Europe prend de l'ampleur. Des détails avec Mathis et François.
Dès 2009, les pays du G20, les pays les plus puissants au monde, s'attaquent à la fraude fiscale, responsable du manque d'argent dans certaines périodes budgétaires.
Pour l'Union européenne, la perte de recettes fiscales s'élèverait à 1 000 milliards d'euros par an.
Pour les 4 premiers mois de 2014, Bercy aurait récupéré 764 millions d'euros, soit plus de 2 milliards d'euros par an.
Les paradis fiscaux, comme la Suisse et Singapour, veulent en finir avec l'image de pays verrouillés par le secret bancaire.
Les banques suisses veulent que leurs clients fraudeurs se régularisent.
L'Union européenne a engagé des négociations avec Monaco, Andorre et Saint-Marin pour régulariser les fraudeurs.
En France, le gouvernement de Manuel Valls a annoncé à la fin de la dernière semaine que 600 000 foyers allaient sortir de l'impôt.
Il compte subventionner cette mesure qui coûterait 800 milliards d'euros grâce à l'argent récupéré par les opérations antifraude.
Et tout de suite, la loi famille présentée par Vincent.
La loi famille. L'Assemblée nationale a entamé lundi 18 mai l'examen de la proposition de la loi socialiste et écologiste sur la famille qui doit être débattue jusqu'à ce mercredi. Ce projet de loi qui concerne l'autorité parentale et l'intérêt de l'enfant vise à développer l'exercice conjoint de l'autorité parentale, notamment en cas de séparation, à reconnaître le rôle des beaux-parents et à favoriser le recours à la médiation familiale. Cette loi que le précédent gouvernement avait essayé de faire adopter pour finalement reculer, subit les foudres des députés de l'opposition. L'UMP a en effet déposé 700 amendements pour ralentir la bonne marche des débats, ce qui cristallise les crispations. C'est notamment l'article concernant le mandat d'éducation donné aux beaux-parents sans qu'un juge n'intervienne dans la procédure. Mais l'UMP n'est pas seul à protester. Le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes fait part de ses vives inquiétudes. Le texte de loi prévoit en effet que les anciens conjoints doivent se donner mutuellement accord pour déménager, ce qui, en cas de violence conjugale, pose des problèmes. Certes, la loi présente de bons aspects, notamment une pénalisation plus lourde des parents qui s'amusent par le droit de visite. Quant à la question d'interdire la fessée, l'article de la loi ne sera pas présenté à la lecture. Qu'en aurait dit Jean-Jacques Rousseau ? Bref, cette loi sur la famille, qui depuis celle sur le mariage pour tous, connaît de vives contestations, n'est pas près d'être votée.
Vous n'aimez pas l'école, mais certaines méthodes vont vous faire changer d'avis avec Ashmia, Laura et Lara.
En France, les méthodes pour enseigner ne sont pas toutes les mêmes. En Charente-Maritime, dans le village de Cognac, des professeurs ont décidé d'enseigner en classe sous forme de vidéo d'une durée de 4 à 6 minutes au rythme de l'élève. Il poursuit son cours avec un formulaire de 5 questions destinées à évaluer ce qu'ils ont retenu de la leçon.
Pourquoi cette méthode ? Un témoignage d'un professeur de CM1 et CM2 répond à cette question. Avant, lorsque je faisais le même cours pour tout le monde, au bout de quelques minutes, les meilleurs éléments de la classe s'ennuyaient et les plus en difficulté étaient déjà noyés. Cela permet à l'enseignant de répartir les élèves dans plusieurs ateliers sans être sans cesse derrière eux.
Nous avons alors comparé un autre établissement. Il se situe dans le Finistère, une nouvelle démarche pédagogique qui ne prennent plus de notes et ils ont recours à leurs tablettes numériques.
Mais l'innovation, ce ne sont pas les tablettes, mais le rapport entre l'élève et le professeur. Le professeur travaille au quotidien. Ils travaillent au quotidien ensemble.
Chaque matin, le premier enseignant de la journée fait un bilan de 30 minutes avec les élèves pour réexpliquer les cours de la veille pour ceux qui n'ont pas compris.
Voilà. Vous n'aimez peut-être pas l'école. Maintenant, les méthodes sont là pour vous faire changer d'avis.
Savez-vous ce que devient votre téléphone portable après son usage ? Marc et Quentin ont mené l'enquête.
En effet, figurez-vous qu'aujourd'hui, 67% des déchets électroniques ne sont pas recyclés.
Ils se retrouvent dans une décharge, chez un ferrailleur, ou encore, ils passent illégalement les frontières.
20 à 50 millions de tonnes de déchets électroniques sont produits chaque année dans le monde, et les États-Unis sont les premiers producteurs mondiaux de déchets électroniques.
Mais ces déchets pourraient-ils avoir un enjeu dans l'économie de la France ?
Oui, en effet, explication. À partir de 50 000 téléphones portables, on peut retirer 1 kg d'or et 10 d'argent, pour une valeur de 40 000 euros.
La France a intérêt à prendre ses valeurs au sérieux car ces métaux se font rares et précieux.
Elle importe ses matières premières en masse, les laisse s'échapper sous forme de déchets faute de contrôle. Puis les rachète, c'est insensé.
La France devrait penser à recycler ses matériaux ou améliorer les contrôles.
La paix au Mali n'est plus qu'un souvenir. De Lucie et Mélissa.
Le Mali est un pays d'Afrique du Nord. C'est une colonie française qui depuis un an fait face à des menaces terroristes. La France intervient donc pour les aider, mais elle est seule pour endiguer les difficultés. Les troubles se passent plus précisément dans la ville de Kidal.
Dernièrement, deux journalistes françaises ont été assassinées. L'influence française s'élargit de plus en plus et c'est d'ailleurs à Paris que s'est tenu le Conseil de guerre contre le terrorisme en Afrique occidentale.
Le cauchemar des Maliens va-t-il se terminer ? Grèce, la gauche redresse, par Claire et Clem et Valentine.
Dimanche 18 mai 2014, les Grecs votaient pour le premier tour des élections municipales et régionales. Et c'est le premier parti de gauche, Syriza, qui est arrivé en tête avec 27% de voix devançant de loin le parti socialiste grec, le PASOK, crédité de 4%, et les néo-nazis d'Aube Dorée, crédité de 7%.
Certes, c'est une victoire pour ce parti, mais ce qui frappe, c'est la désaffection de l'électorat. La Grèce avait 45% de sa popularité qui vit sous le seuil de pauvreté et 30% de chômeurs qui n'en finit pas d'essuyer les secousses de la crise financière qui a frappé l'Europe en 2008. Syriza espère bien inverser la tendance et sortir la Grèce des politiques d'austérité imposées par l'Europe et par le Fonds monétaire international.
Du côté de la Libye, des tirs à l'arme lourde ont secouru la capitale ce week-end. Des précisions de Clara et Maëlys.
Dimanche soir, des tirs à l'arme lourde ont été tirés en Libye. La capitale n'avait pas connu une telle violence depuis la révolution de 2011. Il y a eu environ 80 morts et 200 blessés.
Tout a commencé vendredi à Benghazi. Le général à la retraite Haftar lançait l'opération Dignité dont le but est de purger le berceau de la révolution des terroristes. Le militaire a ciblé les brigades islamistes qui sont à l'origine des violences à Benghazi.
En effet, deux brigades armées ont pris la direction du Congrès général national, CGN, dans le but d'arrêter les députés islamistes. Le groupe de Haftar annonçait dimanche soir la dissolution du CGN.
Haftar va en effet confier l'autorité législative du CGN au comité constitutionnel. Mais la population, elle, hésite. Mohamed explique. Nous avons le choix entre deux diables, Haftar ou les islamistes. Mais Haftar est également à l'origine du coup d'État de février dernier. Il y parlait de la dissolution du Parlement. Certaines brigades avaient même lancé un ultimatum au CGN, ne leur laissant que 5 heures pour quitter le pouvoir.
Comme le montre l'attaque de ce week-end, la Libye n'est pas prête de sortir de ce chaos politique.
Duel entre la Russie et l'Ukraine, tout de suite avec Julien et Antoine.
Depuis le 13 avril, la guerre entre la Russie et l'Ukraine fait rage. Près de 130 morts depuis l'opération antiterroriste visant à reprendre le contrôle de l'Est ukrainien. Cela pourrait empêcher le déroulement du scrutin présidentiel dimanche 25 mai dans ces régions. Les 2 millions d'électeurs pourraient être alors privés de vote ou devront faire plusieurs heures de route pour aller dans une région sous le contrôle des autorités de Kiev.
Début mars, Sergueï Tarouta est nommé gouverneur de la région de Donetsk par le gouvernement provisoire. Il a pour mission de rétablir l'autorité de l'État, ce qui risque d'être difficile car il a presque totalement perdu le contrôle de ses troupes. Du côté des rebelles, le pouvoir des séparatistes est incarné depuis quelques jours par Alexander Bokorai. Il refuse toute négociation avec Kiev tant que leur territoire ne sera libéré des troupes stationnées.
En effet, Vladimir Poutine a donné lundi un geste d'apaisement.
À moins d'une semaine de la présidentielle ukrainienne, il a donné l'ordre au ministère de la Défense de rappeler les troupes postées près de la frontière Russie-Ukraine.
Seulement, les États-Unis et l'OTAN n'ont aucune preuve d'un quelconque retrait, alors que le président russe avait déjà affirmé la semaine passée que ses troupes avaient reculé sans aucune preuve non plus. Le président Vladimir Poutine serait-il en train de nous cacher des choses, ou lui-même a-t-il perdu le contrôle de ses troupes ?
Pas toujours facile d'être handicapé. Heureusement qu'il y a la solidarité. Léa et Maëva, à vous.
Gauthier est une personne à mobilité réduite qui souhaite disposer d'une autonomie. Maintenant qu'il a obtenu le code de conduite, il aimerait pouvoir conduire, mais le seul problème, c'est que l'aménagement d'un véhicule coûte environ 50 000 euros.
Des collègues de travail ont créé pour lui une association intitulée L'Autonomie. Il souhaiterait trouver des financements pour l'aménagement d'un véhicule.
Des élèves du collège Raoul Rebou de Mont-Louis se sont mobilisés pour la course contre la faim le vendredi 16 mai 2014. Les collégiens ont couru pour lutter contre les problèmes de malnutrition dans certains pays comme Madagascar. Ce genre d'action se multiplie dans plusieurs collèges comme Philippe de Comines à Tours, qui a participé à la course contre la soif.
Les dons récoltés vont servir à creuser un puits au collège de Ouéguédo, au Burkina Faso, avec qui le collège est partenaire. En effet, depuis 7 ans, le collège Philippe de Comines est partenaire avec l'association Rivière Ouéguédo, présidée par Madame et Monsieur Ozans, et mène différentes actions au Burkina Faso.
Il n'y a pas longtemps, le collège Philippe de Comines a couru contre la soif, et maintenant... Mon Louis court contre la faim.
La SPA de Luynes a organisé des portes ouvertes pour adopter 120 chiens et 45 chats le week-end du 17 et 18 mai 2014. Le samedi 17 mai, le refuge de la SPA n'a enregistré qu'une seule adoption de chats, alors qu'il y a quelques années, il y a eu jusqu'à 30 adoptions de chiens en un week-end.
Aujourd'hui, les gens viennent dans les refuges pour voir, mais refusent souvent d'acquérir un autre animal de peur de ne pouvoir l'assumer à l'avenir.
Et tout de suite, un triste anniversaire. Le bombardement de Tours pendant la guerre présenté par Tom.
En effet, vous y assistiez peut-être ou vous en avez entendu parler. Il y a 70 ans, le 20 mai 1944, Tours essuyait des bombardements faisant 143 morts ainsi que 67 blessés. Une centaine de pilotes américains devaient détruire les ateliers de chemin de fer et des postes d'aiguillage. Beaucoup ont raté leur cible car les pilotes expérimentés se trouvaient en Moyen-Orient à ce moment-là. C'était donc des pilotes peu entraînés chargés de ce travail. Cela explique donc que des bombes aient explosé dans les quartiers Beaujardin, Velpeau et de l'avenue Gramont et aussi dans les rues des Prébendes. 50 bombes explosives ont été envoyées mais curieusement, la gare de Tours n'a pas été détruite.
Le plus gros des dinosaures, découvert en Argentine de William et Justine. Cette idée fixe qui serait content.
Des chercheurs argentins découvrent un des plus gros dinosaures du monde. Plus grand que le Pludocus, situant sur 40 mètres de long, ou évalue son poids à 73 tonnes. Les paléontologues argentins pensent qu'il s'agit d'une nouvelle espèce de titanosaure, un herbivore quadrupède géant de la classe des sauropodes.
C'est grâce à ce fémur et à humérus du même individu que les scientifiques ont pu obtenir une estimation des dimensions de l'animal. C'est le plus gros dinosaure de la planète. Même si on n'a trouvé que 4 ou 5 ossements, le fémur mesure 2,40 m de long. L'animal avait la hanche à 5 mètres de la hauteur.
Ces animaux vivaient au milieu du Crétacé, il y a 95 millions d'années. Les chercheurs annoncent avoir repéré plus de 150 ossements distincts et pas moins de 7 individus.
On n'a pas fini de faire des découvertes passionnantes préhistoriques.
Le cancer du sein marque beaucoup de femmes en France. Le point de Anaïs et Cassandre.
En France, la Haute Autorité de Santé a étudié 69 facteurs de risque du cancer du sein. Cette étude va servir à renforcer le dépistage.
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier. En 2012, le nombre de cas en France est estimé à 48 800 et 11 900 décès.
Une femme sur 8 serait confrontée à ce cancer qui peut être guéri dans plus de 90% des cas.
Ce cancer concerne les femmes de 50 à 74 ans en moyenne.
Le cancer peut se transmettre génétiquement, avoir une bonne hygiène de vie, ne pas manger beaucoup de viande grasse, ne pas consommer d'alcool permet de limiter le risque de cancer du sein. Il peut se développer vers l'âge de 60 ans, une fois la ménopause passée.
Pour les personnes qui ont des antécédents de cancer, le dépistage doit être plus fréquent.
Le nouveau film de David Cronenberg en compétition avec Inès et Rachel.
David Cronenberg, réalisateur de 71 ans, ayant de nombreux succès, réalise un film intitulé « Maps to the Star » pour le Festival de Cannes, qui a lieu du 14 au 25 mai.
Ce film est un film dramatique qui se passe à Hollywood, où se télescopent les étoiles. Benji, 13 ans, est déjà star. Son père, Sanford Wesh, auteur à succès et coach de célébrité. Sa cliente, la belle Havana Segrand, qui aide à se réaliser en tant que femme et actrice. Complète le tableau, Agatha, une jeune fille devenue à peine débarquée l'assistante d'Havana et le séduisant chauffeur de limousine avec lequel elle se lie, Jérôme Fontana, qui aspire à la célébrité. Mais alors, pourquoi dit-on qu'Hollywood est la ville des avices et des névroses, des incestes et des jalousies, la ville des rêves se fait rêver, fait revivre les fantômes et promet surtout les déchaînements des pulsions et l'odeur du sang.
Les acteurs de ce film sont Julianne Moore, Robert Pattinson, Mia Wasikowska et Olivia Williams. Il dure environ 2 heures, a été produit aux États-Unis et a eu 9 nominations. Ce film est en compétition avec Foxcatcher, réalisé par Steve Carell.
Maps to the Star sortira dans nos salles le 21 mai.
Daphné, c'est Chloé et le nouveau Boléro de Ravel.
Un des célèbres ballets composés par Maurice Ravel, Mofnis et Chloé est de nouveau sur scène jusqu'au 8 juin à l'Opéra de Paris. La chorégraphie de Benjamin Millepied, ça ne s'invente pas, danseur étoile connu dans le monde entier et renommé à New York ainsi qu'en France, mélange timidité, amour, lien et espace du corps ainsi que les musiques de Ravel.
L'histoire de deux amants brisant l'interdit de s'aimer, comme dans toutes les histoires, il y a un méchant. Celui-ci est nommé Briaxis, le chef des brigands prend la belle en otage.
Si vous voulez connaître le dénouement, dépêchez-vous car il ne reste plus beaucoup de temps.
Pour terminer, un peu de sport avec Marc et Quentin.
Avec Marc, nous sommes allés au match du Tour FC.
C'était le dernier match de la saison 2013-2014.
Le TFC a écrasé les Clermontois 3-0 avec un triplé du surdoué Andy Delors, l'attaquant tourangeau.
Une superbe ambiance dans le stade au terme d'un beau match.
Malheureusement, Delors va partir pour un meilleur club et c'est tout. Après 6 belles années passées au Tour FC, partira aussi pour un autre club.
Maintenant, je vous propose de dire les résultats de la Ligue 1 à Ligue 2.
Premier avec ses 89 points, le Paris Saint-Germain avec le meilleur buteur de la Ligue 1, Zlatan Ibrahimovic avec ses 26 buts.
Second, Monaco avec 80 points qui rêve toujours le titre national.
Et le deuxième dauphin qui est Lille avec 71 points. Ils ont le meilleur entraîneur de Ligue 1, René Girard.
Descendant en Ligue 2, Ajaccio, Valenciennes et Sochaux.
Sochaux qui pourtant ont réussi leur deuxième partie de saison.
Passons à la Ligue 2. Monte en Ligue 1, Metz, Lens et Caen.
Descendent en National, Bastia, Istres et Châteauroux. Tour finira 8e avec 55 points.
Maintenant, l'autre actualité du sport.
Après une défaite sur terre battue contre Djokovic, Nadal doute pour Roland-Garros.
Va-t-il se reprendre ? Nous verrons ça au prochain Roland-Garros.
Wilkinson a officialisé hier la fin de sa carrière à l'issue de la saison. Il raccrochera après 2 finales.
Voilà, c'est tout pour le sport.
Rendez-vous pour la saison 2013-2014. 2014-2015.
Merci d'avoir suivi notre journal en direct des 4e A. Au revoir.